Salut à tous, on est content de vous retrouver pour un podcast spécial jeux vidéo rétro gaming. On est avec Nico, salut Nico.
Salut, salut à tous.
Donc on va vous faire partager un peu nos expériences dans ce premier podcast pilote par rapport au rétro gaming et puis toute l'évolution qu'il y a eu dans les consoles de première génération jusqu'à milieu des années 90, parce que on va rester dans le rétro gaming quand même, on va pas aller non plus jusqu'à la PS3. On va voir que les premières consoles dans les premières années 70, comme la console Odyssey, ne permettaient pas forcément de faire autre chose que des barres et puis des points sur l'écran qui naviguaient à droite à gauche. Il n'y avait pas forcément de grandes performances. Et puis il faut dire que cette console Odyssey, je sais pas si toi tu l'as vu en vrai, Nico.
Non, alors là, celle-là, j'ai jamais vu en vrai. J'ai vu que des reportages dessus, donc ça fait une vieille calculatrice, ça fait une grosse calculatrice en fait. Non, j'ai jamais pu toucher une Odyssey de ma vie. Peut-être que ça viendra, mais puis bon, c'est pas forcément une console qui m'intéresse vraiment, parce que c'est vrai que le choix est vraiment limité dans le jeu, quoi.
Ouais, c'est une console qui est sortie début années 70, avec très peu de possibilités, et il fallait coller sur l'écran un papier qui s'attachait avec l'électricité statique sur votre téléviseur cathodique, et qui permettait d'avoir des décors en affichage, on va dire, trois-dimensionnel, mais avec un peu de triche. Et vous aviez en fond d'écran, juste derrière le papier que vous aviez placé sur votre écran, le petit point qui se déplaçait avec le faisceau de la télé. Et à l'époque, il n'y avait pas de prise Péritel non plus, donc vous étiez obligé de brancher sur votre antenne télé les connecteurs de la console. Et la console Odyssey, c'était une grosse boîte en fait. Il n'y avait pas de cartouche ni quoi que ce soit. Tous les jeux étaient intégrés et vous aviez simplement dans certaines lames connecteurs que vous mettiez dans la console, des connexions qui permettaient à la console de changer les faisceaux à l'écran et de vous faire croire que voilà, vous jouiez à un jeu différent. Et malheureusement, c'est une console qui n'a pas duré très très longtemps. On a eu pas mal de consoles qui sont venues derrière, justement, on va dire, concurrencer à cette console dans le mode Pong, c'est-à-dire que vous aviez la ColecoVision, Intel Vision, VideoPack, Atari 5200. Et qui est venu un peu plus tard également aussi. Mais c'était toutes des consoles à base de
briques.
De briques et puis de
barres, ouais, voilà,
qui s'affichaient. Et vous aviez souvent des consoles qui vous permettaient de jouer à plusieurs sports, donc le hockey sur glace, le basket, mais il y avait très peu de variantes. C'était assez limité.
Est-ce que disons que, ouais, en fait, le truc, c'est que t'avais. C'était encore la base de Pong, et puis au milieu, ils rajoutaient des petits carrés, des petites briques. Pour faire style qu'il y avait des joueurs sur le terrain, mais c'était vraiment c'était très limité. Par exemple, le basket, si je me souviens bien, donc tu avais encore le point qui se déplaçait de haut en bas, d'horizon, enfin à la verticale,
ouais.
Et il y avait des petits paniers qui étaient dessinés par des briques, hein, tout simplement, et fallait que trouver le bon angle pour pouvoir tirer dans le panier. Il y avait ça, il y avait comme le baby-foot aussi. Alors bon, j'y ai joué très longtemps après. Ça n'a pas été même les premiers jeux auxquels j'ai joué, mais j'y ai joué beaucoup plus tard. C'est vrai que c'est marrant, 5-10 minutes, mais quand tu vois sur les boîtes de l'époque, toute une famille joue ensemble en étant heureux de jouer. Bon, tu te dis que c'est un peu un foutage de gueule, quoi. C'était pour essayer de faire vendre la console, parce que bon, ben, tu joues 10 minutes, Je me vois pas rester une heure à jouer à ça, quoi.
Ouais. C'est vrai que la grosse révolution qui est arrivée juste après, c'est l'Atari 2600, qui est arrivée en 80 en France. Oui. Et là, justement, tu avais pas mal de variantes dans les graphismes. On voyait quand même déjà le début des jeux de plateforme avec
de la couleur.
Il y avait, ouais, il y avait 4-5 couleurs. Mm. Il n'y avait pas trop de dégradés non plus. C'était des assemblages de pixels à l'écran. Je ne sais pas quel était l'affichage de cette console, mais on va dire que c'était beaucoup. Ça ressemblait. On pouvait déjà s'imaginer un peu plus être. Dans un jeu d'aventure, une course de voiture, des choses comme ça, il y avait quand même pas mal de possibilités. Mais c'est une console, voilà, qui a duré 2-3 ans malheureusement, parce que ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une grosse lassitude des joueurs dans le monde et des familles qui achetaient ça à leurs enfants en se disant mais attendez, on nous vend des choses et finalement le jeu ressemble pas du tout à la jaquette, parce que toi t'as connu ça aussi, les jaquettes, mon Dieu.
Ah ben de toute façon on en parlera plus tard, mais à l'époque on se faisait qu'à la jaquette, un petit peu aux images qu'il y avait derrière. On n'avait pas internet avant pour se dire, pour se donner une idée du jeu, quoi. Ouais. Donc voilà, ils embellissaient la jaquette pour pouvoir faire vendre.
Ouais, et puis finalement, tu joues à un jeu, bon là, tu te retrouves avec un espèce de poteau, une barre et puis un carré,
voilà,
qui se baladait dans l'écran. C'était un jeu d'aventure, mais bon, il fallait avoir une grande imagination aussi, quoi. Mais voilà, en 83, il y a le fameux crack et il y a beaucoup de consoles et de créateurs qui font faillite.
Ah oui.
Je crois même que Atari, ils ont dû se remettre en question. Atari, il faut savoir que c'était des gens capables de créer des jeux en une semaine ou deux semaines dans leur QG. Alors je sais plus dans quelle ville ils étaient établis exactement aux États-Unis, mais j'avais vu un reportage où ils expliquaient qu'ils mettaient la pression sur les développeurs ils mettaient la pression à tout prix sur les créateurs pour sortir des jeux à la va-vite, et malheureusement ils étaient dans de moins en moins de bonne qualité. Et puis il y a eu le fameux jeu E.T. qui a été révélateur de ce crack,
cette médiocrité.
On s'est retrouvé avec des jeux enterrés dans le désert du Nevada et qui valent aujourd'hui une petite fortune entre guillemets, parce que t'as beaucoup de joueurs qui ont récupéré justement ces cartouches qui ont été déterrées récemment, il y a 3-4 ans. Mais voilà, les cartouches avaient été enterrées de faute de vente, et on a dû séparer et jeter à la poubelle des millions de cartouches. Et voilà, Atari a subi un peu les foudres de tous les joueurs du monde entier qui voulaient plus rien acheter. Et puis il y a eu une grosse remise en question des créateurs de jeux vidéo avec la troisième génération de consoles qui sont sorties à partir de 85. Et puis on a eu la chance de voir la NES,
voilà,
Nintendo.
Ça, c'est notre époque.
C'est notre époque.
Voilà.
Parce que la Famicom qui est sortie donc au Japon, je crois qu'elle est sortie un an et demi avant le marché français. Quelque chose comme ça.
Elle est sortie 2 ans même. Attends, si je raconte des bêtises, elle est sortie 4 ans même. Parce qu'elle est sortie en 83 au Japon, elle est sortie qu'en 87 en France.
Ah ouais, quand même, c'est assez violent, quoi.
C'est fou, hein.
C'est assez violent. Mais il y a eu un boom justement de l'affection par rapport à cette console, et qui a ramené tous les anciens joueurs vers cette console pour apprécier les nouveaux jeux que Nintendo sortait. Il y a eu pas mal de jeux familiaux justement pour les enfants, etc. Parce qu'il faut dire que sur les consoles Atari, etc., des années 70, début 80, c'était des jeux assez compliqués. Il n'y avait pas forcément de règles bien établies dans le manuel. On comprenait pas ce qu'il fallait faire à l'écran. Là, tu prenais la manette, tu t'amusais, tu jouais tout de suite, quoi. C'était une petite révolution, quoi. Il y avait un plaisir de jeu avec le premier Mario, etc., Castlevania, ouais. Legend of Zelda. T'as également la PC Engine NEC qui est venue concurrencer cette console avec la Master System aussi. Et toi, t'as connu la Master System?
Ah bah moi, c'était ma première console, la Master System, en fait. Mes parents me l'avaient acheté, mais alors bon, pas... Bon, 80, elle est sortie, je crois, en... Ouais, elle est sortie aussi en 87. Bon, moi, j'avais que 2 ans, je l'ai eu... au moment où la Mega Drive et la Super NES sortaient, et la Master System faisait partie des consoles les moins chères du marché. Elle était encore moins chère que la NES. Et comme mes parents ne connaissaient strictement rien aux jeux vidéo. Je pense qu'ils avaient dû demander au vendeur une console pas trop chère, et puis ils m'avaient pris la Master System, et encore c'était la Master System 2 hein, que j'avais, donc celle-là elle a dû sortir je crois un petit peu plus tard, ou je sais pas, je me rappelle plus le laps de temps entre la première Master System et la Master System 2. Mais voilà, ça a été ma première console. Juste avant, je jouais un petit peu à l'Atari, ça devait être 7800, je crois, parce que j'ai des souvenirs de Pac-Man et trucs comme ça. Mais sinon, c'était en borne arcade, hein, juste avant. C'était surtout les bornes arcade dans les bars, les restos et trucs comme ça, sinon, quoi. Mais ouais, la Master System, c'était ma première console, ouais.
Ouais, mais c'est vrai que cette console, elle avait la. C'est Sega qui avait sorti cette console, et justement, ils avaient pas mal de licences de films, pas mal de licences de dessins animés, etc. Et puis, ils commençaient justement à exploiter un peu le filon cinéma pour les enfants qui appréciaient des gros titres. Et on a vu pas mal de jeux adaptés. Qui venaient des grands écrans. Les Nintendo restaient quand même dans des jeux assez qu'ils avaient créés eux-mêmes, et il n'y avait pas trop de. On va dire jusqu'à peut-être 86, enfin 87-88, où ils ont commencé aussi à faire du commerce avec ce qu'ils faisaient. Et Nintendo avait des jeux propres à eux, alors que Sega, ils essayaient quand même de prendre des idées à droite à gauche pour se faire une ludothèque. Mais non, c'est vrai que moi j'ai bien apprécié la Master System. Je sais plus si c'était une de mes consoles que j'ai eu en premier, mais j'avais bien aimé justement voilà Alex Kidd qui était sorti avec cette console intégrée.
Alors, pas tous, enfin, il y avait d'autres versions. Hein. Bon, moi j'ai eu celle avec justement Alex Kidd qui était intégrée directement dans la console. Il y avait des versions avec Sonic aussi intégrées dans la console. Elle est un peu plus rare celle-là. Mais c'est vrai que la plupart du temps c'était avec Alex Kidd. Et moi j'avais Alex Kidd dedans plus Sonic en cartouche.
Ça va pour toi.
Ah bah non, mais là à l'époque, bon, bah ça devait pas être non plus. Entre guillemets très cher, mais maintenant, si toi tu as chez toi ce pack avec Alex Kidd dedans, plus le jeu de Sonic qui était en cartouche, tu peux la revendre. Je pense que tu peux pas forcément te faire des couilles en or, mais tu peux en tirer un bon prix maintenant, hein.
Ouais, mais on va dire que le rétro gaming aujourd'hui permet de retrouver des trucs assez rares en bonne qualité, mais quand tu veux de la bonne qualité, c'est faut mettre le prix quoi, pour
C'est ça.
quand tu veux l'acheter. Malheureusement, t'as des choses assez hors de prix encore aujourd'hui
Ah
pour le
oui.
rétro gaming, qui étaient très très abordables à une autre époque. Malheureusement, le fait que pas mal d'anciens veulent rejouer à des. Ça fait monter les prix, quoi, voilà. Mais donc ouais, c'était le début des grosses consoles 8 bits justement, et moi la NES, moi ce que j'aimais pas sur la NES, je me souviens quand elle est sortie, c'est que les jeux étaient très très difficiles,
Ah oui.
et malheureusement ça m'a beaucoup rebuté. J'ai eu du mal à comment dire à apprécier pas mal de jeux sur cette console. J'y suis revenu beaucoup plus tard, mais on va dire que pour un enfant de 10-11 ans, jouer à la NES, tu pouvais passer des heures à essayer de passer le premier niveau qui durait seulement 2 minutes.
Bah moi j'ai des souvenirs, souvent je prêtais ma Master System à un copain, lui me prêtait sa NES. Il avait, je me souviens de ce jeu Ghouls and Ghosts.
Qu'est-ce qu'il est de
Ah non mais celui-là, et le souci c'est que bon bah à l'époque t'avais pas énormément de jeux, donc moi je lui avais prêté un... Bon lui il avait de la chance parce qu'il avait Alex Kidd et puis Sonic justement. Donc il pouvait s'éclater sur les deux, moi j'avais que celui-là, Ghouls and Ghosts. Oh là là, mais c'est cauchemardesque ce jeu. Il est vraiment horrible, il est trop dur quoi. Franchement, j'ai dit, mais au bout d'un moment, je me souviens, je lui ai dit non, je te prête plus ma console, je vais encore m'énerver sur la tienne. C'est vrai que le niveau de difficulté. Mais après, sur la Master System, hein, il y a certains jeux qui étaient durs. Et puis voilà, on avait pas le choix de. Certains jeux, tu mourais une fois, ça y est, c'est. Enfin, certains jeux, tu pouvais te faire toucher, allez, deux fois avant de mourir. Certains, c'était qu'une fois. Tu avais le game over, tu pouvais pas reprendre là où tu voulais. C'était super compliqué, hein.
Je sais pas s'il y avait des sauvegardes,
Non.
il y avait encore des mots de passe ou des choses comme ça.
C'était, voilà. Ça se passait sous forme de mots de passe. Après, donc, fallait bien noter les mots de passe à chaque fois, mais bon, les mots de passe, tu les avais à chaque fin de niveau.
Ouais.
Voilà. Et encore, fallait le noter, et certains n'étaient pas notés, ou fallait trouver un mode secret. Voilà, à l'époque, tu n'avais pas Internet pour t'aider, hein, donc c'était. Tu te débrouillais toi-même, quoi.
Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Et puis il y avait toujours le mystère d'acheter un jeu en se fiant à la jaquette.
Ah, voilà, alors ça.
Alors la Master System, c'était assez compliqué parce que si vous vous souvenez justement de la forme des cartouches, bon, c'était la même taille que je crois ceux de la Mega Drive, mais t'avais la forme de la boîte, mais t'avais justement une jaquette blanche avec un design futuriste avec des lignes qui se croisaient et justement une
Voilà.
petite image au milieu qui te mettait le héros en
Ah
valeur.
ben,
Ou parfois,
ouais,
qui
ou
n'avait aucun
pas.
rapport. Aucun rapport
Ou pas.
avec le
Tu te
jeu.
rappelles de, c'était quoi, Super Soccer? T'avais juste une jambe qui tirait dans un ballon.
Voilà. C'était tout le charme de Sega
Voilà.
qui n'avait pas envie de faire des jaquettes. Contrairement à Nintendo NES qui, justement, mettait tout le paquet dans la jaquette parce
C'est
que
vrai.
il se disait ah, si on fait voyager le client déjà dans un univers quand il achète le jeu en vitrine, on a peut-être des chances de le fidéliser si le jeu lui plaît après, etc. Alors que Sega, c'était une découverte. Acheter le jeu, tu te fies à une jambe ou un ballon.
Bah, disons qu'au début, voilà, c'était ça. Après, ils se sont un peu plus, un petit peu évolué dans leur façon de faire les jaquettes. Je me souviens, Indiana Jones aussi, là, t'avais une belle jaquette sur sur la couverture devant. Et là, par exemple, tu vois, là, dans la main, j'ai Shinobi. Bon, bah voilà, ce jeu-là, t'as le ninja avec des shurikens sur le côté.
Ouais.
Tu regardes ça, tu dis, waouh, ouais, ça doit être génial. Après, tu lis derrière, t'as quatre petites images qui montrent le jeu. Et t'as dans toutes les langues une toute petite, mais vraiment une toute petite synthèse du jeu, quoi.
Ouais. Mais c'est vrai que les textes mis derrière les cartouches en général, c'était assez risible, hein, parce que bah, c'était un truc pour te faire imaginer ce que ça pouvait être, mais finalement, ça avait pas trop de rapport parfois avec
Ben, des fois, ça avait aucun rapport avec l'histoire. C'était vraiment une petite synthèse, mais en fait, même pas une synthèse du jeu, parce que tiens, ben, je peux lire vite fait là sur Shinobi ce qui est marqué. Hein, c'est marqué, vous êtes un maître ninja, vous allez vous battre contre vous. Bon, là, il y a une grosse erreur déjà de traduction. Voilà, ouais. Un groupe de terroristes armés et adeptes des arts martiaux absolument sans aucun scrupule. Mais vous avez une arme secrète, la magie ninja. Voilà. Bon, bah après toi, quand t'achètes ça, tu te fais des idées déjà du jeu. Bon, après Shinobi, il est bien, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Shinobi, c'est un très bon jeu, mais t'en as, il pouvait te faire vendre n'importe quoi. Il disait que c'était, enfin, il pouvait te faire croire que c'était un bon jeu, puis c'était une daube monumentale, quoi.
Souvent ça arrivait pour les jeux d'aventure où ils te disaient que tu allais voyager dans un monde magnifique à la recherche de la princesse ou de quêtes machin.
Ça.
Il n'y avait qu'un jeu qui était comme ça, c'était Zelda, mais tous les autres, malheureusement,
Ah, voilà.
tu te cassais les dents. Faut dire aussi le prix des. Parce que malheureusement, après les premières consoles Atari 2600, 2000, 2600 et etc., même les ColecoVision, là, les cartouches étaient hors de prix, c'était
Ah ouais.
450 francs. Hein,
C'était
c'est
400 balles à peu près, ouais.
l'équivalent de 65 euros aujourd'hui, je pense, quelque chose comme
Ouais.
ça.
Et bah justement, je sais pas toi, mais moi j'attendais mon anniversaire ou Noël pour avoir une nouvelle disquette, quoi.
Ouais.
Ou alors, exceptionnellement, quand tu avais un jeu qui était à 99 francs à l'époque, donc qui était à 15 euros maintenant, en promo, bon bah tu le prenais, mais souvent c'était pas des jeux exceptionnels, quoi, c'est ça?
Ouais, c'était pas des jeux exceptionnels, hein. T'avais souvent des sous-jeux, c'est-à-dire voilà, le sosie d'Outrun, mais qui s'appelait sûrement Drift ou des choses comme ça. Il n'y avait pas vraiment de nom. Et puis, malheureusement, à l'époque, les magazines ne permettaient pas forcément de.
Ben, avant 90 même, je trouvais que c'était même moins détaillé que ce qu'on a pu connaître après 90.
Ouais.
Et soit donc on se fiait, ben, de toute façon là je pense que c'était vraiment à cette époque-là où vraiment tu te fiais à la manette, à la jaquette, pardon. Ou alors certains jeux c'était des portages de la version arcade. Et bon, tu te disais, j'ai joué à la version arcade, normalement, la version console, ce sera à peu près la même, quoi.
Ouais, avec un peu de chance, quoi.
Oui, avec un peu de chance, oui.
Beaucoup d'optimistes aussi.
C'est ça.
Parce que, mis à part les petits jeux à la Double Dragon ou à, je sais pas, Pac-Man, comme tu dis, là, t'as peut-être une chance que ça ressemble à de l'arcade, mais dès que tu veux jouer à un Top Gun ou à...
Ah oui, c'est autre chose,
ça. Je sais plus quoi, il y avait Afterburner, il y avait des jeux comme ça, c'était... dont on va parler sur les prochaines consoles qui arrivent juste derrière, c'est les 16 bits avec la Mega Drive, qui est arrivé très tôt aussi au Japon, malheureusement, parce qu'ils ont sorti une console avec Altered Beast, je me souviens, et le problème, c'est qu'il y avait très peu de jeux au tout début de la Mega Drive, et
Ah oui.
franchement, les premiers jeux Mega Drive, c'était pas affolant, hein. Moi, je me souviens que j'ai pas eu un choc visuel. J'étais bien avec une Master System ou je veux dire, un Atari ou un Amiga à cette époque-là.
C'est vrai.
La Mega Drive, elle me faisait pas envie, hein. Déjà, je voyais le prix des jeux. Alors
c'était hors de prix.
Voilà, c'était hors de prix. Alors que quand t'avais la chance d'avoir des amis au collège ou voilà, l'école primaire qui avait un Atari ou un Amiga, tu t'échangeais des disquettes, etc. Le jeu, tu ne payais pas forcément, on va dire. Et finalement, tu t'y retrouvais parce que tu pouvais jouer à des jeux en mettant très peu de prix, très peu d'argent.
Ouais.
Et puis la Mega Drive, les jeux, ça, je crois que ça atteignait presque 500 francs sur certains jeux au tout début.
Oh, c'est possible. C'est possible. Mais moi, tu vois, il y a un truc qui me... Je me souviens maintenant, c'est que... Enfin, c'était mon impression. Et je me disais, mince, la NES, c'est les gens cool, quoi, qu'on la NES, quoi. Et finalement, en fait, quand tu regardes bien, la Master System, à l'époque, elle était pas plus... elle était aussi bien que la NES. Alors oui, peut-être au niveau... je sais pas, contenu de jeu, t'avais peut-être beaucoup plus de jeux sur la NES, mais des fois la Master System, elle se défendait bien à l'époque. Hein.
Ouais, elle se défendait bien. Moi, je pense que la NES, les jeux étaient plus profonds, plus longs, et
ouais.
La Master System, c'était plus, on va dire, je sais pas, c'était des jeux...
Bah déjà plus joli graphiquement, moi
ouais,
je trouve.
Déjà plus joli, le son était
ah ouais.
meilleur aussi. Elle avait une petite avance, je pense, au niveau processeur à l'intérieur.
Sûrement, ouais.
Mais de toute façon, elle est sortie en 84, apparemment, la Master System, si je vois les...
Non, 80... Bah, mais c'est sorti à peu près en même temps avec la... 85, peut-être, plutôt, non?
Alors, en 85, elle est sortie au Japon. 85.
Ouais, voilà.
Et ensuite, elle est sortie en Europe en 86 et 87, à quelques mois d'écart. Ouais, de toute manière, quand tu vois une console sortie 2-3 ans avant, finalement, au Japon, avec la NES... je pense qu'il y avait une avancée technique légère, mais ça se voyait quand même, hein, à l'écran. Moi, je me souviens des jeux tout simples, hein, comme Alex Kidd. T'avais aussi tous les jeux Disney avec
ouais.
Castle of Illusion, les Quackshot, etc.
C'est ça.
T'avais quand même un lissage de l'image, et puis des grands sprites comparés à la NES qui étaient un peu écrasés, etc. Bon, bien sûr, sur NES, t'avais des superbes jeux, hein, y a rien à dire. Mais je sais pas, la Master System, il y avait une ludotique complètement différente et tout le monde pouvait s'y retrouver, je pense. Quand tu avais l'une, tu pouvais avoir l'autre, je pense, à un moment donné. C'était pas le même jeu, pas le même public.
Un jeu normal à l'époque, en 87, il était à 37 euros, à peu près 38 euros en 87. Après, comme il y a eu justement une recrudescence d'achat, enfin, comme ça avait super bien marché, ils ont augmenté les prix. C'est passé de 37 euros à 45 euros, quoi, en fait. Mais bon, ça restait abordable quand même.
De toute manière, il y avait très peu de gens qui avaient beaucoup de jeux, hein, sur ces consoles.
Ouais.
La Master System, tu pouvais compter 5-6 jeux au bout de 2 ans, quoi, on va dire. Maintenant, les gamers, ils enchaînent les jeux tous les 2 mois. Il y a 2 mois, tous les 2 mois, t'as un jeu qui sort. Alors qu'à l'époque, t'avais quand même des gros intervalles entre certains titres. T'attendais le titre phare qui sortait dans 6 mois ou des choses comme ça. Il y avait très peu. Il y avait une très grande attente entre certains jeux et tu pouvais pas forcément non plus acheter tout ce qui sortait vu que t'avais pas beaucoup d'argent. C'était bien espacé, il y avait un bon rythme, je trouve. Alors qu'aujourd'hui, si tu veux suivre la cadence, c'est pratiquement impossible. T'as un jeu qui sort tous les 2 mois, on va dire.
Ah ouais, maintenant, puis tous les bons jeux sortent en même temps, à peu près, aussi.
Ouais.
Quand tu vois, quand t'es un fan de sport, au mois de septembre, ben t'as FIFA qui sort avec NBA, NHL, des trucs comme ça. Bah voilà, au bout d'un moment, faut quand même faire un choix, quoi, parce que tu peux pas tout prendre en même temps, quoi.
Voilà. Mais selon toi, les meilleurs titres qu'il y avait justement sur la NES et la Master System, c'était quoi pour
Bah,
toi?
moi, les titres où t'étais sûr, alors, de t'amuser, je sais pas, mais les titres qui étaient toujours aussi jolis, c'était tout ce qui était Disney, ouais, tout ce qui était Disney, Mickey, Donald, je me souviens, les Tom et Jerry, là, tous les jeux qui étaient dérivés des dessins animés. Bon, c'était quand même une valeur sûre. Alors certes, certains ils étaient très durs, mais au moins t'avais la qualité, quoi. Tu retrouvais bien l'univers du dessin animé en question, quoi.
Ah ouais, c'est certain. Ouais.
Après, à l'époque, les jeux de sport, bon, c'était pas encore ça. T'avais pas encore, t'étais pas trop imprégné comme maintenant dans un jeu de foot ou un jeu de basket. T'avais pas cette ambiance-là. C'était vraiment trop arcade à l'époque, quoi.
Ouais, trop limité. Ils pouvaient pas faire des vues non plus géniales. Ils ont essayé, je me souviens, sur la NES de faire des jeux de sport, mais c'était souvent en 3D isométrique. Et t'avais, par exemple, tu jouais au hockey sur glace, t'avais pas le nombre de hockeyeurs sur la glace. Le mieux,
Ouais,
c'était pareil.
ils avaient essayé de faire des jeux en 3D aussi à l'époque. Il y a un Tony Meola Soccer, je crois, un truc comme ça, qui est en 3D total. C'était injouable. C'était injouable. C'était la console. Elle pouvait pas supporter ce genre de graphisme, en fait. Donc voilà.
C'est vrai qu'ils se sont plus rapportés sur des jeux fun qui ressemblaient un peu à la réalité, mais qui étaient toujours dans l'esprit jeu et moins réaliste. Ils ne pouvaient pas forcément faire des choses extravagantes. Donc,
C'est ça.
mais c'était une bonne génération qui a ramené le public justement qui était hyper déçu des
C'est
anciennes
vrai.
générations. Ben après, faut dire que c'est plus les enfants de l'ancienne génération qui ont joué avec ces consoles. Hein. Parce que, alors on va dire que c'était sorti dans les années 75-76, les autres. Donc là, on se retrouve avec des consoles qui sont sorties en 85, 86, etc. Il y a quand même pas mal d'années d'écart. Et puis, on va dire que c'est la génération de ces enfants-là qui va grandir avec l'évolution des consoles qui vont être de plus en plus puissantes. Bon, comme on a dit, il y aura la Super NES et la Mega Drive qui vont être les deux consoles phares justement des années fin 80 et milieu 80, jusqu'à milieu 90, parce que bon, elle a quand même duré jusqu'à 94-95, ces deux consoles juste avant l'arrivée de la PS1 de Sony. Et je pense qu'elle aurait pu durer un peu plus longtemps si justement Sony n'avait pas sorti cette console aussi rapidement. Parce qu'il y avait quand même un public comment dire, fidèle à ces deux consoles. Et justement là, la petite guerre qu'il y a eu entre ces deux générations de joueurs, bah, ça a continué ensuite à travers l'histoire, parce qu'on en reparle encore aujourd'hui. Tu avais des gens qui préféraient la Mega Drive et qui détestaient la Super NES et
C'est
inversement.
ça.
Et pourtant, la Mega Drive est arrivée largement sur le marché, largement avant la Super NES. Et l'avantage, moi je me souviens de l'avantage de la Super NES, c'est que tu avais le mode 7 qui permettait des jeux avec une profondeur beaucoup plus grande et beaucoup plus variée dans les scènes de jeu, etc. Comme les Mario Kart. Il n'y avait pas Mario Kart sur Sega, par exemple. Tu avais plus de la plateforme et.
Non, il n'y avait pas de. Attends, je me rappelle, non, c'était sur Mega Drive. Il y avait un jeu un peu de karting aussi, qui était par contre pas terrible. Ouais.
Ils ont fait des
Mais
copies, on va dire, du mode 7 à un
voilà,
certain moment,
c'est
mais
ça.
c'était pas génial. La Super NES avait une technologie légèrement avancée. Et moi, je garde de bons souvenirs sur cette console. Là, pareil, si t'étais pas patient, il fallait aller en import chercher les jeux.
C'est ça.
Parce qu'il y avait presque un an d'attente, parfois, entre les sorties européennes et japonaise. Bon, après, ça dépend ce que tu recherchais dans ces consoles, mais il y avait une grande variété là. Tu avais du sport, tu avais de l'aventure, tu avais du. Je sais plus, il y avait des adaptations de films aussi. Enfin, il y avait une tonne de variantes de jeux,
Ah
quoi.
oui.
Toi, quel souvenir t'en as, toi, de ces deux consoles?
De quoi? De la Mega Drive et de la Super Nintendo. Bah, de toute façon, moi, juste après la Master System, je suis passé sur Mega Drive. En fait, moi, j'ai été très Sega bon, jusqu'à ce que j'ai eu une PlayStation, en fait. J'étais très Sega. La Mega Drive, bon, je l'ai eu très tard aussi. Hein. Moi, en fait, au début, hein, les consoles, à part la Saturn, que ce soit Master System et Mega Drive, je les ai eus assez tard quand même. Parce que voilà, parce que moi j'avais pas d'argent à l'époque. Mes parents, pour moi, les consoles c'était pas non plus un truc exceptionnel, mais bon. Et moi j'ai souvenir d'avoir passé des bons moments avec les deux consoles, parce que finalement la Super NES, j'allais jouer chez un copain. Et par contre, la Super NES pour moi était légèrement un petit peu plus au-dessus que la Mega Drive au niveau contenu de jeu, quoi, en fait.
Ouais, déjà au niveau musical, tu sentais que
voilà.
Les sons étaient légèrement plus variés, et t'avais aussi, comment dire, un lissage de l'image un peu comme aujourd'hui, où tu peux avoir des différences entre des textures pixelisées, des textures lisses. Je me souviens de la Mega Drive qui avait quand même des graphismes assez bâclés pour les premiers jeux. Et
Ouais.
qui s'est bien rattrapé par la suite, heureusement. Mais la Super NES a toujours été au-dessus graphiquement.
Ouais, et puis des portages, par exemple, de certains jeux qu'il y avait sur Super NES, tu disais, ouais, bah c'est bon, je vais pouvoir me lâcher sur Mega Drive. Et puis à chaque fois, t'étais déçu, ouais. Parce que ça avait pas du tout le même rendu. Je pense, par exemple, moi, j'étais pas trop fan. Enfin, je regardais l'univers Dragon Ball. Dragon Ball Z, par exemple, c'est vrai que j'aimais bien, mais j'étais pas un gros fan. Mais souvent, je jouais sur la version Super NES à Dragon Ball Z, et quand tu passais de la version Super NES à la version Mega Drive, tu te disais, c'est quoi ce jeu ? En fait, tu croyais que c'était, enfin, t'aurais cru que c'était une version plus ancienne de ce que la Super NES proposait, quoi.
Bah après, c'est sûr qu'il y a eu des bons titres. La Mega Drive, la qualité qu'elle avait, c'est qu'elle pouvait afficher beaucoup plus de pixels à l'écran, et tout ce qui était shoot'em up, et aussi comment dire, les jeux de plateforme à la Disney, etc. T'as une fluidité beaucoup plus accrue, un peu comme la Saturn, si tu veux. La Saturn qui est sortie après, elle avait une qualité d'affichage au nombre de couleurs et de pixels supérieure à la Sony PlayStation.
Ouais.
Et malheureusement, voilà. Il y a très peu de jeux qui ont profité de ces capacités de la Mega Drive.
Ah ouais, parce que la plupart du temps, les jeux, ils étaient... il y avait certains, c'était des bouillies de pixels, quoi, en fait.
Oui, hein, parce que moi, je me souviens de Rocket Knight, Thunder Force 4, t'avais aussi Aladdin, les jeux Disney qui étaient d'une qualité d'animation largement supérieure à ce que tu pouvais trouver
bien
sur Super NES. Sur Super NES, le point fort, c'était la musique. Moi, je me souviens surtout de la musique de n'importe quel jeu. Quand tu jouais à un jeu Star Wars, t'avais tous les thèmes du film de A à Z en entier.
C'est vrai.
T'avais bon, après les jeux de sport, il y avait très peu de jeux, peut-être NBA Jam qui était sympa.
Ouais, et encore, je trouve que pour les deux consoles, les jeux de sport, ils étaient très basiques encore. Bon, il y avait la simulation commençait un petit peu à se ressentir. Mais que ce soit pour la Super NES ou la Mega Drive, c'était à peu près le même portage, en fait. Hein. Vraiment, il y avait peut-être une légère amélioration graphique sur la Super NES.
Bon,
mais,
tu vois, par exemple, les John Maiden, ils étaient largement mieux sur la Super NES que
Bien sûr.
La Mega Drive. Ouais. Mais quand tu reviens du NBA Live, du FIFA, c'était exactement les mêmes jeux. Hein. C'était pareil.
Moi aussi, il y a un truc, hein, les titres qui m'ont marqué sur la Mega Drive, moi c'était Outrun, déjà. Ce jeu-là, j'ai pu y jouer vraiment. Maintenant, j'y joue toujours parce que voilà, l'univers me plaît, la musique est parfaite. Et puis moi, je trouve que graphiquement, c'est un bon portage de la borne arcade sur Mega Drive. Il y a ça, il y a Street of Rage aussi. T'as quand même des très bons hits sur la Mega Drive, et qui ont un son qui est très bon et des graphismes très bons aussi, quoi. Y a pas tout acheté, hein. Au contraire, la Mega Drive, il y a quand même son charme aussi, hein.
La qualité qu'elle avait, c'est que comme elle arrivait plus tôt à la vente, si tu veux, elle avait pas les mêmes composants, elle pouvait pas forcément rivaliser sur certains trucs, mais ils ont quand même réussi à faire des jeux équivalent voire supérieur sur certains titres, et ça c'est une qualité, parce que moi je me rappelle surtout des jeux Disney, quoi. T'avais tous les jeux adaptés des dessins animés qui sortaient au cinéma, et à chaque fois les jeux étaient meilleurs sur Mega Drive, même au niveau sonore, et c'était incompréhensible. Comme si, après, peut-être que Sega avait un contrat avec Disney, justement, qui voulait favoriser les versions Sega. C'est peut-être possible, je ne connais pas exactement l'histoire, leur relation en
Bah,
contractuel.
comme c'est américain déjà, peut-être qu'il y avait plus une envie de développer sur une console du pays qu'une console d'un autre pays, quoi.
Ouais, peut-être. Mais c'est vrai que les Street of Rage, c'était un gros choc visuel, hein. Moi, je me
Ah ouais.
souviens. Moi, je voulais cette console rien que pour ce jeu à une époque.
Mais voilà, mais non, non, mais moi de toute façon, même si maintenant en collectionnant la Mega Drive, je me la suis reprise. Exprès pour ce jeu-là aussi, quoi, parce que c'est que des bons souvenirs, c'est vraiment un jeu exceptionnel celui-là, quoi.
Ouais, au niveau, comment dire, beat'em all, comme
Ah ouais.
Double Dragon, Final Fight. Ils avaient Final Fight, la Super NES, mais ils ont mis très longtemps à sortir les deux suivants qui étaient au Japon, Final Fight 2 et 3, et en import ils étaient assez chers aussi. Et le problème qu'il y avait, voilà, c'était le 50 Hz et le 60 Hz sur sa génération de console, parce que malheureusement, comme la NES et la Master System, mais tu avais des bandes noires pour des jeux adaptés.
C'est ça.
En Europe, et malheureusement, l'image était écrasée. Donc, soit tu t'amusais à agrandir derrière ta télé cathodique l'écran à chaque fois que tu jouais à un jeu pour enlever les bandes noires, soit tu faisais switcher ta console justement pour mettre du 60 Hz sur des jeux à 50, etc. et retrouver la qualité de jeu du jeu d'origine.
Ouais.
Parce que sincèrement, jouer à Altered Best en 50 Hz ou jouer à, je sais pas moi, un jeu de foot avec tous les personnages écrasés, minuscules, c'est compliqué quoi. C'est bon. Faut pas avoir vu la version étrangère avant quoi.
Ah ouais, c'est ça, hein.
Moi je repense au Fatal Fury, les Fatal Fury spéciales, etc. qu'il y avait sur la Super Famicom et quand ils les ont adaptés en Europe sur la Super NES, mon Dieu quoi.
Ah ouais, là, tu te disais, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi? Il n'y avait pas d'autre mot, quoi.
Je crois que tu perdais 25% de vitesse du jeu et des bandes noires en plus, quoi.
C'est
C'était
ça.
assez scandaleux, quoi. Tous les jeux de combat à la Neo Geo, bah
Ah
voilà,
bah oui,
qui étaient adaptés
c'est ça.
sur ces consoles, c'était une souffrance. Ouais, donc c'est vrai qu'à cette époque-là, tu avais aussi la Neo Geo qui était disponible.
Ah ouais, mais là, fallait vraiment avoir beaucoup de pognon pour pouvoir se prendre cette console. Après, on a tous plus ou moins joué à cette console-là, parce que si t'allais dans des salles arcade ou, je te dis, dans des bars et trucs comme ça, tu retrouvais au moins un jeu Neo Geo dedans, quoi.
Ouais. Et la Neo Geo, c'était une adaptation pure et dure des versions arcade des jeux.
Ça.
Bon, malheureusement pour eux, ils n'avaient pas une grande ludothèque, ils avaient seulement leur jeu de combat à eux, et puis un ou deux jeux d'aventure. T'avais Magicien Lord et je sais plus lequel encore, mais il y avait très peu de variantes alors que Sega et Nintendo faisaient des jeux vraiment familiaux et puis dans plusieurs secteurs. Là, ça restait du combat quand même. Il y avait pas mal de jeux comme Samurai Shodown, t'avais les Art of Fighting. En course de voiture, ils avaient un jeu en 3D isométrique dont tu m'avais parlé.
Ouais, bah c'était Neo Geo Drift, ça s'appelait. C'était un jeu de rallye qui était pas mal, franchement. C'était intéressant, tu vois. C'était en 3D isométrique, mais pour moi c'était pas mal. C'était bien fait pour un jeu comme ça. Ils avaient quelques jeux de sport, ils avaient des jeux de foot. Bon, bah pour moi, c'est vrai qu'à l'époque, quand tu jouais sur Mega Drive à FIFA ou même sur Master System. Ouah, tu te disais, ouais, bah t'étais content d'avoir ces jeux-là, mais quand tu jouais sur Neo Geo, ah, tu te disais, mais c'est le rêve. Là, tu te disais que les jeux du futur, ça allait être aussi beau graphiquement, un truc comme ça. Bon, c'est vrai que maintenant, quand tu y rejoues, tu te sens que c'était vraiment un jeu pour perdre du pognon, mais c'était beau, quoi. Il y a les Super Sidekicks, il y a quand même c'était une bonne idée pour un jeu de foot, quoi, en fait.
Mais tu vois, je regarde les chiffres de vente de cette console. Ils ont vendu 1 million de consoles dans le monde entier. Et c'est pas énorme finalement. Ça, ça montre
Non, non, bah non,
que c'était une console de luxe, hein.
voilà, c'est ça, c'était trop cher, mais bon, après, je pense que tu pouvais la garder un moment avant qu'elle plante, quoi.
Ouais, en
Bon,
plus c'est ça.
comme la plupart des consoles, hein, d'un autre côté, t'avais pas trop, j'ai pas souvenir qu'il y avait de défauts sur certaines consoles ou que Bah c'est il y a que maintenant que les consoles d'avant ont des soucis pour s'allumer et trucs comme ça. À l'époque, tu pouvais la garder 5-6 ans, bon, sans la faire tomber bien sûr, mais tu pouvais les garder 5-6 ans voire plus sans qu'elle ait le moindre souci quoi.
Bah, c'est une console, je sais plus combien elle coûtait à l'achat. Et je crois qu'elle coûtait peut-être 4000 francs, je crois, 3990, quelque chose comme ça, quand elle est
C'est
sortie.
possible, ouais.
Et les jeux, c'était du 1500 francs, par contre, minimum. Il y avait des jeux à 1700 francs, comme les King of Fighters, les gros jeux qui faisaient. Alors, la cartouche même de la Neo Geo, tu t'en souviens combien de mégas elle faisait?
Non,
C'était du 128 ou quelque chose, 64 ou quelque chose comme ça, je sais plus.
64 ou 68, ça dépend de ouais.
Ouais, et c'était. Voilà, dès que la cartouche était blindée, on va dire, bah le prix du jeu était blindé aussi, hein.
C'est ça.
Moi, je me souviens, j'avais un ami voilà, qui avait la console autour de moi, dans tous ceux que je connaissais, et puis son père était chef d'entreprise, il avait les moyens de lui payer la console, mais il y avait très peu de gens autour de moi qui pouvaient avoir une telle console, c'était impossible. Le prix, et puis surtout, il fallait être un public déjà averti en sachant que tu allais avoir que des jeux de combat pratiquement. Il n'y avait pas forcément de grandes variantes. Hein.
Ah ouais, c'était vraiment, voilà, mais c'était une console d'arcade, et c'est vrai qu'à l'époque, la plupart du temps, les jeux arcade, c'était beaucoup des jeux de combat aussi, hein.
Ouais. Mais c'est vrai que tu as eu des shoot'em up aussi, des shoot'em up assez intéressants, mais qu'ils ont réussi quand même à adapter. Je me souviens sur la Super NES en mettant des cartouches 32 mégas, là, tu sais, avec une extension. Et tu avais Samurai Shodown, tu avais. Je sais plus lesquels encore ensuite. Enfin, il y avait pas mal de jeux de combat, mais qui ressemblaient. Mis à part le fait qu'ils zoomaient pas, parce que la Neo Geo, la qualité qu'elle avait, c'est qu'elle affichait des sprites à l'écran, mais en plus, tu avais un zoom qui venait, qui allait dans les jeux de combat
Ouais.
pour montrer la puissance de la console qui gérait l'affichage.
En jeu de combat, t'avais les King of Fighters aussi, je me souviens.
Ouais.
Ouais.
Bah, là, dans les stats, là, King of Fighters 95, c'est le jeu qui a été le plus vendu sur cette console. C'est pas étonnant parce qu'il est arrivé à la fin de vie de la console aussi,
C'est ça.
justement, où peut-être elle était peut-être plus abordable hein, pour certains joueurs, je sais pas. Et puis.
Puis bah t'as les meilleurs, mais enfin. Celui qui est connu pour être avec cette console, tu associes Neo Geo avec ce jeu-là, c'est. Eh ben merde, j'allais le dire tout à l'heure, oh putain. Metal Slug, voilà, c'est Metal Slug.
Ouais.
Quand tu penses à Metal Slug, tu penses à Neo Geo, parce que voilà, c'est un jeu made in Neo Geo, et c'est vrai que, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on a déjà vu pour l'époque. Enfin, c'était pas de la réalité, mais c'était un jeu super beau, quoi.
Ouais, les Metal Slug, ils sont restés assez historiques hein, sur cette console. Hein.
C'est un bon défouloir aussi.
Mais je me souviens que j'étais pas forcément impressionné hein, parce que cette console, finalement, moi, elle m'a jamais attiré. J'ai jamais fait des pieds et des mains non plus pour économiser, pour essayer de l'avoir parce que le peu de jeux qu'il y avait sur cette console et puis le prix, je me retrouvais plus dans une Super NES que dans autre chose parce que. Je sais pas, quand aussi on a vu la Jaguar sortir à un moment donné,
Oh là là.
c'était assez comique, hein.
La 3DO, t'avais 3DO, la Jaguar, t'avais quoi d'autre comme genre de console comme ça qu'on pas duré longtemps. Moi j'ai que ces deux-là
En
dans
tête.
la tête, la 3DO et la Jaguar. Ouais, la Jaguar, il disait que ça allait être vraiment la console du futur avec. Je sais pas combien de bits pour une console comme ça, mais quand tu regardais les jeux, ils étaient dégueulasses, quoi.
Ouais. Bah, le problème qu'il y a eu, moi j'étais allé au salon du jeu vidéo à Paris en 94, je crois.
Ouais.
Et le problème qu'il y avait eu, ou 93 plutôt, ouais. J'avais vu le premier FIFA d'ailleurs, le premier FIFA
En
93
3D?
sur Mega Drive, voilà,
Ah oui, ouais.
qui était sorti 6 mois avant la suite de la Super NES.
Ouais.
Et voilà, tu avais la Jaguar en avant-première dans le salon et il y avait très peu de gens autour de cette console parce que finalement, les jeux qu'ils te montraient, ils te montraient des jeux qui imitaient Star Fox et etc. et d'autres jeux qui étaient sur la Super NES, mais c'était hyper moche. Et il y avait très peu de qualité sur cette console, mis à part la puissance. Et plus tard, on a appris que les programmeurs s'étaient désintéressés de cette console parce qu'elle était improgrammable.
C'est fou, quoi.
Et finalement, les éditeurs n'ont jamais voulu se détacher des formats cartouches Super NES et Mega Drive parce que tu avais un public déjà. Et puis voilà, c'était une clientèle acquise, alors que la Jaguar, fallait que la console se vende, fallait que...
Non, puis regarde, quand tu regardes la manette, comment elle est faite, mais comment tu veux jouer avec un truc comme ça, quoi? C'est un pavé que t'as dans la main, quoi.
La manette, je l'ai pas en tête, mais je me souviens que
Bah,
c'était
en fait, si tu veux, comment t'expliquer? Ça fait une manette un peu.
un boomerang un peu, non?
Ça te fait. Bah, ça ressemble un petit peu à ce que les toutes premières manettes de la Xbox, mais en beaucoup plus gros. Ça te fait un pavé, en fait.
D'accord.
T'as trois boutons, t'as un pavé directionnel et au milieu, t'avais des touches, quoi, en fait.
Ouais, d'accord. Ouais, je vois l'histoire.
C'est avec bah, de 1 jusqu'à dièse, en fait. Comme un truc de téléphone, quoi, comme un pavé numérique de téléphone, quoi.
Déjà, s'ils ont mis dièse sur la manette, je pense qu'ils se sont trompés de design.
Ouais.
Ils ont fait une faute déjà.
C'est ça.
Les joueurs, ils ont pas envie de jouer avec un dièse, à mon avis.
Ah oui, ça c'est sûr.
C'est abaissé à la limite, mais voilà.
Ouais.
Mais c'était, moi je trouve que c'était cette période-là, on va dire de 85 à 95, c'était la meilleure période au niveau concurrence, plaisir.
Il y en avait pour tous les goûts de toute façon.
Ouais.
Celui qui n'arrivait pas trop à faire son choix, c'est vraiment qu'il n'y mettait pas du sien parce que voilà, enfin c'était. T'avais tellement le choix. Alors après, c'est sûr que c'était pas certains n'étaient pas pour toutes les bourses, mais t'avais tellement le choix que tu pouvais. Enfin, si t'avais pas, si t'aimais rien, ben c'était pas la peine d'aimer le jeu vidéo, quoi.
Ouais.
Il y a une console, moi aussi. Là, enfin, c'est pas une console, oui et non. C'était la CDI.
Ouais.
Je me souviens, elle était chez les amis à mes parents et j'adorais soit écouter de la musique parce que quand t'avais les bonnes enceintes. À l'époque, bon, tu avais encore la version cassette, bon, tu avais les versions CD aussi, mais je trouvais qu'il y avait je sais pas, ça rendait vraiment bien. Et puis tu avais certains jeux qui étaient en. Bah, c'était comme si tu jouais au tennis en vrai. Je me souviens
Ouais.
de comment il s'appelait, le Open Tennis, là, ou Coupe Davis, je m'en rappelle plus. Et c'était des vraies personnes qui étaient dedans, en fait.
Non, c'est
Et.
digitalisé, ouais.
Digitalisé, et c'est vrai que pour l'époque, waouh, tu te prenais une claque dans la gueule. Après, le CDI reste vraiment très limité en matière de jeu aussi. Hein.
Bah, c'était un peu la mode à cette époque-là. Je me souviens 94, 95, début 93 aussi, on est arrivé à on avait envie de digitaliser un peu tout. Et je me souviens des premiers
Mega CD.
Mortal Kombat. T'avais Time Cop aussi sur la Super NES.
Ouais.
Il y en avait d'autres encore que j'oublie, mais les plus marquants c'était les Mortal Kombat. Ils avaient réussi à scanner à prendre en photo des personnages en vrai qui faisaient les actions et ensuite les remettre dans le jeu, etc. C'était une.
Je me souviens aussi quand j'allais faire des courses aussi à l'époque, il y avait la Mega CD qui était présentée. Et vraiment, la Mega CD à l'époque, tu avais un jeu de cowboy, je crois, un jeu de Far West. Et tu avais des vraies personnes. Et enfin, c'était génial pour l'époque. Tu te croyais vraiment dans un film.
Ouais, et après c'était une petite arnaque quand même parce que c'était
Ouais.
limité ce que tu pouvais
Bien
faire.
sûr, bien sûr.
Il y avait très peu de possibilités. D'ailleurs, il y avait un jeu là c'était sur la Sega CD aussi. T'avais le jeu d'aventure où t'as des gens qui sont piégés dans un appartement.
Ah oui.
Et puis, en fait, tu passes ton temps à appuyer sur la manette pour avancer à l'autre séquence, etc. Mais c'est un petit film et tu joues pas vraiment.
Tu dois piéger des voleurs qui rentrent dans la maison, c'est ça?
Ouais, voilà. Ils
Ouais, c'est.
sont habillés comme des extraterrestres avec des scaphandres ou je sais
C'est
plus
ça.
quoi. Enfin, c'est ridicule. Ils voulaient faire des trucs hyper futuristes alors que le jeu était vide. Finalement, il n'y avait rien du tout dans le jeu. Et là, justement, où comment dire, les créateurs se sont plantés, c'est en essayant de faire des extensions sur ces consoles qui étaient déjà bien. Et il fallait à tout prix monter la puissance de la console et pas mettre un nouveau périphérique qui apportait rien.
Ouais.
Tu te souviens, toi, de la Super NES, sur le côté, tu avais T'avais un slot où que tu pouvais ouvrir et soi-disant accrocher à un nouveau périphérique, mais le truc n'est jamais sorti en
Et
fait.
ben en fait, c'était ben justement si la PlayStation est sortie, c'est qu'à l'époque, ils voulaient faire un Super NES CD. Et comme il y a eu entre Sony, il y a eu un clash entre Sony et Nintendo. Du coup, le truc, il s'est jamais fait et Sony a préféré faire sa console elle-même. Alors imagine que ça aurait marché, Nintendo, ils étaient le roi pendant un moment, hein.
Ouais, je pense que bah, ça aurait peut-être fait comme la Nintendo 64, c'est-à-dire qu'ils étaient dans le cours de l'évolution, mais sans forcément aller trop loin, en restant avec une puissance limitée de la console. Et finalement, Sony a fait la. Après, ils l'ont dit aussi, hein, le fait que ça ne soit pas fait avec Nintendo, ça a été la meilleure solution de leur carrière, parce que. Ils ont pu créer une console beaucoup plus puissante et pour l'époque et justement apporter un nouveau format CD à la génération de joueurs de jeux vidéo quoi. Et moi je me souviens quand je crois que c'était en 95 hein, la dernière fois que j'ai joué à la Super NES que j'ai vendu pour acheter la PS1. Et je pense que t'as pas mal de joueurs au début qui ont regretté peut-être de s'être séparé des consoles Mega Drive et Super NES pour acheter la PS1 parce que si tu te souviens, la PS1, le problème de lentille
Ah oui, celle-là par contre, il y a eu énormément de problèmes à sa sortie, ouais.
de fabrication, etc., c'était pas du tout optimal. Même les jeux, tu t'amusais bien à Ridge Racer, des jeux comme ça, mais. La première révolution, je me souviens, c'était plus pour le Resident Evil qui est sorti, peut-être 6 mois après ou 1 an après le début de la console, je ne sais plus exactement. Mais les premiers jeux de la PS1, c'était vraiment pas. Ça m'a. Déjà, bon, le prix, c'était beaucoup moins cher qu'une cartouche à la production. Donc les jeux étaient 100 francs moins chers. Je me souviens, c'était 299 francs un jeu, quelque chose comme ça. Mais t'avais pas des gros titres. T'avais un Rayman, t'avais voilà, Ridge Racer, t'avais un jeu en 3D avec un robot, là, je sais plus ce qu'il faisait. Ils avaient créé des jeux pour montrer la puissance 3D de la
C'est
console,
ça,
mais
voilà.
forcément que ça soit amusant.
Bah disons que tu avais des beaux graphismes, alors par contre il y avait des gros soucis avec la caméra qui était mal gérée à l'époque en fait. Ah ouais.
C'est
Je me
le.
souviens, c'était quoi G-Police, le jeu G-Police là.
Ouais.
Tu avais ça et puis tu avais même le cinquième élément, je me souviens de ce jeu-là, il m'avait dégoûté. Tu avais des problèmes de caméra, mais tu pouvais pas tourner ta manette correctement. Dès que tu tournais un tout petit peu, tu as la caméra qui te faisait un espèce de zoom, mais c'était dégueulasse. Y a eu plein de gros soucis comme ça, quoi, en fait.
Ouais, mais c'est cette console. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui se sont empressés de l'acheter parce qu'on promettait une 3D magnifique. Bon, c'est vrai que tu avais Wipeout qui permettait justement de profiter à fond de la console en t'amusant. C'était un F-Zero, mais largement mieux, quoi. Et je me souviens que ce jeu-là, c'était pour moi le meilleur du début de la console. J'ai vraiment profité de ce jeu. Mais les autres, bon, tu gardais ton argent pour attendre ce qui allait sortir parce que finalement tu te retrouvais avec rien.
C'est ça.
T'avais un beau packaging avec un. Je sais pas si tu t'avais eu le CD de démo aussi avec le
Non, mais
Tyrannosaure.
moi j'avais eu que la Sega Saturn en attendant en fait. Le souci, c'est que moi à l'époque, je savais pas attendre. Et quand je suis allé dans le magasin pour acheter la console, c'était un Carrefour, ils avaient plus de PlayStation. Et il fallait attendre une semaine avant qu'ils la remettent en vente parce qu'ils étaient à sec, quoi. Et il restait la Saturne. Et moi, comme un con, comme je n'aimais pas attendre, et ben, je me suis pris la Saturne. Et bon, ben, c'est vrai que ben, c'était quand même en dessous de la PlayStation. Il y avait des bons titres dessus, mais certains qualités graphiques, c'était quand même pas terrible, hein, pour certains jeux.
Si on peut comparer par exemple les Tomb Raider, déjà
Ouais, ben, justement.
il était moyen déjà sur PlayStation, mais quand tu le voyais sur Saturn, c'était pire. Donc
Tous les jeux étaient trop pixelisés en fait sur cette console, quoi. S'il y avait comment il s'appelait, Panzer Dragon, qui était pas mal, si je me souviens bien. C'était ça, Panzer Dragon, là où il y avait une femme sur un dragon là.
c'est ça.
Celui-là était pas mal. Il y avait Sega Rally qui était pas trop mal, mais le reste des jeux c'était trop trop pixelisé. Les FIFA, ils étaient dégueulasses. Ah, les FIFA 97, il était un petit peu moins, un peu plus en dessous que celui de la version PlayStation. Par contre, le 98, par rapport à la version PlayStation, c'était mais horrible, horrible, sans déconner.
Ouais, mais tu vois, c'est ce que je disais, hein, Resident Evil, il est sorti pratiquement un an après le début de la console, en août
Ouais.
96, et je me souviens que Resident Evil, qui est sorti en plein été comme ça, et ben moi, c'est une période où j'avais plus d'argent pour acheter un jeu, et au mois d'août, bah, t'étais obligé de revendre un ou deux jeux pour te récupérer
Bah, c'est
autre
ça.
chose, parce que août, il n'y a pas Noël, il n'y a pas... enfin, il n'y a pas les parents, tu travailles pas,
Exactement.
tes vacances scolaires... Enfin, donc pour te récupérer des jeux, c'était pas évident. Et puis, comment dire, le problème de la... Enfin, la qualité et le problème de la PS1, c'est que les jeux commençaient à sortir, mais c'était énorme, quoi. Le débit de jeux sortis
Ouais.
par mois, je crois que la ludothèque de la PlayStation, il y a quelque chose comme... Voilà, 3000 jeux ou je sais plus combien référencés, mais c'est énorme. Il y a un truc énorme en comptant les jeux japonais, etc., qui sont sortis de 96 à 2006 sur 10 ans. Mais c'est une des consoles où tu as eu le plus de trucs. Bah, tu as eu des grosses merdes aussi, hein, faut le dire. Hein. Tu avais des jeux de culture, tu avais des jeux. enfin, tu avais de tout, quoi. Mais les gros gros titres, quand tu voulais les choper, parfois tu étais obligé de choisir un autre à la place et d'attendre, voilà, 2 3 mois avant de récupérer l'autre.
C'est ça.
Et comment dire, la qualité qu'il y avait aussi, c'est que tu as eu un essor des échanges de jeux d'occasion dans les boutiques qui ont commencé à créer, comment dire, des rangées de jeux d'occasion dont tu pouvais profiter et les acheter moins cher. Je sais pas si c'est. Je crois que le premier magasin, je crois que c'était les Micromania.
Micromania, ça doit être dans les premiers, ouais. Après, il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Je m'en rappelle plus les noms des.
Bah, pour ceux qui connaissent Paris,
Score Game, t'as eu les Score Games, t'as eu Dog Games aussi, qui était. Moi, c'était plus dans ma ville, Dog Games. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était convivial. Moi, j'adorais aller dans un magasin de jeux vidéo parce que, voilà, t'avais que cet univers de jeux vidéo, t'avais des gens qui connaissaient leur boulot, qui te renseignaient, tu pouvais tester. T'avais que du jeu vidéo, t'avais rien, t'avais pas de goodies en dehors, t'avais pas de t-shirts et trucs comme ça comme maintenant et ça se fait dans les Micromania. T'avais que du jeu vidéo et franchement c'était un univers qui était génial quoi. T'étais là entre passionnés quoi.
Ouais. Enfin, quand je disais que Micromania c'était les premiers, je parle de la grosse franchise, la première grosse franchise qui a profité de ces jeux d'occasion justement et de ce marché-là. Parce que bon, après, quand vous êtes dans les grandes villes comme Paris, vous aviez au moins 10-15 magasins différents qui se
Ah bah oui.
commençaient dans divers quartiers. Il y avait des magasins qui s'appelaient Ultima Games, Shoot Again, il y avait aussi Coconut, un vieux magasin PC qui a fait un petit temps des jeux pour console aussi après. Mais je veux dire, tous les magasins qui étaient très PCistes sur Paris sont un peu morts dès que les consoles sont sorties. Il y avait beaucoup moins de ventes. Le PC est redevenu un peu plus underground, je me souviens, quand
Ah oui.
les consoles sont sorties.
Bah, fin 80, début 90, les PC, tu jouais très rarement sur un PC. Hein. Bah, faut attendre peut-être la mi-90 et encore même 80, 80, fin 90 pour pouvoir avoir des jeux sur PC. Enfin, il y en avait, ça existait, c'était sur disquette à l'époque, mais ça se vendait pas énormément non plus, quoi.
Non, ça se vendait. Enfin, le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de copies. Alors, la copie, on pense que ça a commencé au début de la PS1 parce que bon, il y a eu le port cartouche avec les magasins
Ouais.
des Super NES qui ne permettaient pas de copier les jeux. Mais voilà, le piratage, ça a commencé, on va dire, déjà à l'époque de l'Apple II avec les disquettes énormes. Qui était copié. Et justement, les vendeurs, quand vous achetiez un jeu sur Apple II à l'époque, ils vous conseillaient de copier votre jeu d'origine parce que malheureusement, dès que tu posais ta disquette près d'un radiateur ou au soleil ou près d'un truc magnétique, ben, la disquette s'effaçait. Donc il fallait faire très attention. Bon, après, on avait des disquettes d'une autre dimension pour Atari et Amiga qui étaient protégées contre les ondes magnétiques. Mais
Ouais.
C'était déjà la copie, c'était la base. T'as acheté un PC, mais tu n'achetais rien au niveau des jeux, quoi. Pourtant, faut dire que moi, je me souviens, les plus beaux packaging que j'ai vus, moi, bah, c'était sur PC, hein. Il y avait des.
Ah oui.
Si on se souvient des jeux Delphine Software avec, comment dire, Opération Steel, c'est les Voyageurs du Temps, les Indiana Jones de Lucasfilm, les Star Wars. Les boîtes étaient magnifiques, hein. C'était quelque chose. T'avais envie d'acheter le jeu et le packaging avec, un peu comme les éditions collector qui sortent aujourd'hui pour certains trucs.
C'est ça.
Et j'ai gardé. Toi, t'as connu certains jeux sur PC ou pas? T'as connu...
Bah moi en fait non alors moi j'ai commencé avec la console mais mi-90 j'avais eu un PC avec Windows 3.1 dessus. Bon à l'époque c'était les disquettes. J'avais SimCity dessus.
Ouais.
Donc voilà, ça se jouait à la souris. Moi je préférais jouer à la souris que jouer à la manette sur console, quoi. Parce que sur console, je me souviens d'y avoir joué sur Super NES. Wow, j'aimais pas quoi, j'aimais pas, j'aimais bien avoir la souris. Et après, je suis passé avec Windows 95 et là, j'ai pu avoir FIFA 97 et genre de jeux comme ça. Et c'est vrai que de temps en temps, bah, je suis entre m'acheter un jeu de console et un jeu d'ordinateur. Bon, c'est vrai que sur l'ordinateur, c'était autre chose quoi. C'était beaucoup plus joli quoi.
Ouais. C'est vrai que dans le futur, on va faire des émissions sur certains jeux en parlant
Voilà.
plus précisément de la manière dont il est sorti, il a été créé. Et puis on parlera également de certaines consoles de façon plus précise. Là, c'était une émission pilote pour parler un peu de nos souvenirs et puis des généralités de l'évolution du monde du jeu vidéo depuis le début, on va dire. Puis voilà, j'espère que vous avez apprécié cette émission. Nico, voilà, on se donne rendez-vous donc pour un prochain podcast. Tu veux rajouter quelque chose?
Non, bah écoute, c'était toujours un plaisir de faire un podcast avec toi. Alors voilà, bon, c'est un épisode pilote, hein, c'est juste histoire de lancer un peu le podcast. C'est plus un souvenir de ce qu'on avait vécu plus jeune.
On vous souhaite une bonne semaine à tous et puis à bientôt.
Allez, salut à tous!